comme, ben c'est ça, on avait regardé, je vais prêcher sur Jean de façon expositoire. C'est la première fois que je fais ça. Avant, j'y allais pas mal plus par thème. Fait que j'entends quelque chose de nouveau, mais c'est vraiment intéressant. Puis je suis vraiment content de faire l'épître de 1 Jean. Ce matin, on va regarder les 4 premiers versets, le premier chapitre, évidemment. Si on se place un peu dans le contexte de cette épître, Jean écrit aux églises parce que dans le premier siècle, on est en ascension. Il y a une religion qui s'appelle le gnosticisme. Ça vient du grec qui veut dire gnose. La gnose, c'est la connaissance. C'est une religion qui divise, si vous voulez, l'esprit et tout ce qui est charnel. Donc, manger, le sexe, etc., etc., là, tout ça, c'est pas bon, on n'a pas besoin de ça. Et l'aspect moral, ce qui est bien et mal, n'est pas rattaché à la loi, donc n'est pas rattaché au péché. Donc, évidemment, ce qui se passe, c'est que ces gens-là détruisent l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, c'est intéressant parce que la lettre de Jean, Jean écrit probablement cette lettre-là, il était assez âgé, on parle de 80 ans à peu près. Puis c'est une lettre très, j'ai envie de dire comme ça, c'est simple, mais en même temps c'est complexe parce qu'il y a une très belle profondeur. Puis vu que le Seigneur utilise les caractères, les dons qu'il a donnés à chacun, les différences, c'est le même sujet que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. On parle de l'amour, on parle de l'œuvre de Christ, mais dans d'autres couleurs. Fait que ça fait vraiment, moi je trouve ça vraiment intéressant, je trouve ça vraiment incroyable. Fait que ce matin, si vous voulez, je vais vous donner mes 3 points. Mes 3 points dans ma prédication, c'est pas facile à comprendre, évidemment, là, parce que vous n'aurez pas le contexte, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre. Donc, mon premier point ce matin, ça va être, on va découvrir la raison pour laquelle Jean nous écrit. Mon deuxième point, ça va être, il y a des facteurs actifs. Mon troisième point va être, il va y avoir des facteurs passifs. Là, je sais que c'est un peu abstrait, puis ça ne dit pas grand-chose. Inquiétez-vous pas, c'est voulu, on va y arriver, on va y arriver. Lisons la parole de Dieu. Donc, lisons 1 Jean 1, versets 1 à 4.
Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, et avec Jésus-Christ, son Fils. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite.
Amen. C'était la parole de Dieu. Donc, la raison pour laquelle Jean nous écrit cette épître. Verset 4, s'il vous plaît.
Verset 4. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite.
Alors, le but d'écrire ces choses, c'est que la joie soit parfaite. D'autres versions vont dire soit complète. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi je trouve ça difficile d'avoir une joie complète. Puis on va regarder au fur et à mesure du texte comment on peut aller chercher cette joie-là. Pas nécessairement facile, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui nous permet de passer à travers nos obstacles, nos souffrances, nos anxiétés, nos dépressions. C'est vraiment quelque chose de très pratique aussi en même temps. Alors, dans mon premier point, la raison pour laquelle Jean nous écrit, c'est parce qu'on doit, ou on nous dit que la joie va être complète. Dans mon point, il va y avoir trois sous-points. Cette joie-là, elle est relationnelle, elle est de source spirituelle, et elle va finir par devenir complète. Donc, mon premier point, elle est de source relationnelle. Si on prend le verset 1, regardez comment ça commence. Jean nous parle de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont touché. Les yeux, les oreilles et le toucher sont les sens avec lesquels on va construire des relations. Et si on se remet dans le contexte de la lettre, Jean écrit à des gens où la gnose, c'est la connaissance des choses. Mais connaître intellectuellement, c'est pas connaître relationnellement. Donc, c'est là où Jean part d'emblée dans sa lettre et dit, si vous vous en allez du côté de la connaissance intellectuelle, du rationalisme, vous ne comprendrez pas. Vous n'allez pas pouvoir entrer en relation avec la vérité, autrement dit. Et, ultimement, avec cette joie-là. Parce que le but d'être en relation, de voir, d'écouter et de toucher, ça procure une joie. C'est comme ça. Il y a même des études scientifiques qui ont prouvé que quand un mari ou une femme fait juste caresser, ça génère. Il y a des hormones qui sont sécrétées, puis ça fait du bien, ça procure de la joie. Quand on regarde quelque chose de beau, ça procure de la joie. Quand on entend des belles choses, en tout cas pour moi c'est ça, si je m'en vais sur le bord du fleuve, j'écoute le fleuve, là, c'est de l'adoration, c'est la joie, c'est une paix, c'est, ça procure des choses. Donc, ces éléments-là nous parlent la joie dont Jean nous parle, c'est une joie qui est relationnelle. À un moment donné, je jasais avec un croyant, puis j'ai posé la question, j'ai dit « Comment ça va? » Et puis là, il me dit « Ah, moi, écoute, ça va super bien, ma vie spirituelle va bien, je fais mes affaires. » Puis le gars, il venait pas à l'église. Fait que, ce que ça veut dire, c'est que la joie, si on veut goûter à cette joie qui nous est proposée, on va la vivre en relation avec les uns, avec les autres. Dans les bons, dans les mauvais moments, avec nos différences de comportement, de caractère, nos défis respectifs. Et c'est à travers ça que la joie va surgir, va émaner. Il y a une autre chose aussi, c'est... Je vous raconte juste une anecdote. La semaine passée, j'ai une tante qui est décédée. Et ma tante avait deux enfants et ça a été difficile avec son fils le plus jeune. Ils ont été 15 ans à ne pas se parler. La relation a été brisée. Et juste avant qu'elle décède, ils ont renoué. Et ce qu'elle a dit à ma mère, moi, je n'ai pas entendu ça, je n'étais pas là, évidemment, mais ce que ma mère me racontait, a dit, avant qu'elle décède, vu qu'ils ont restauré la relation, ça a allégé, ça l'a allégé. Elle était en phase terminale, puis même si elle était hyper souffrante, même si elle n'était pas toute consciente, elle l'a verbalisé. Elle dit, j'ai un fardeau qui est parti. Donc, moi, ce que ça me disait, c'est que dans les relations, quand on attend trop, puis ça, je veux dire ça de manière générale, dans le sens que c'est pas un absolu, on le sait qu'on est dans le côté de la croix où on vit dans le péché, le péché rémanent est là, on va se battre avec encore, mais ce que ça me disait, c'est que de réparer les relations en utilisant les outils de base qui sont les oreilles, les yeux et le toucher, c'est vraiment capital. Et plus qu'on attend pour réparer les relations, plus que c'est difficile et moins qu'on a envie. Ça, je pense que c'est fondamental. Maintenant, je sais qu'on vit dans le désert. Notre vie en tant qu'être humain, puis Marcel en parlait tantôt, puis l'avant-dernier chant qu'on a chanté, quand on chante au Seigneur, « Toujours plus près de toi », dans notre souffrance, dans nos... Puis c'est dur. C'est dur. Quand le peuple a sorti d'Égypte, là, le Seigneur les a gardés 40 ans dans le désert. Oui, ils ont désobéi, mais ils étaient quand même dans le désert. On n'est pas dans une situation où on vit dans des palais avec tout ce qu'on veut, avec la luxure, la bouffe en abondance, etc. Je ne dis pas que les Israélites ont manqué de choses. Mais ils vivent dans un désert où il fait chaud, à traîner tes enfants, le bétail. C'est une grosse job. Apprendre à connaître le Seigneur là-dedans, parce que quand ils sont sortis de l'Égypte, il a fallu qu'il y ait comme une coupure entre leur ancienne vie et ce que Dieu voulait implanter, mais ça démontre encore là quoi? Que notre nature retourne aux anciennes choses parce que on a beaucoup de difficultés à accueillir ce que Dieu veut nous donner. Même la joie. Lisons par exemple les béatitudes. Allons dans Matthieu 5. Lisons les béatitudes. Matthieu 5, 1 à 12.
Or Jésus, voyant la multitude, montant sur une montagne, et lorsqu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et, ouvrant sa bouche, il les enseignait en disant, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous serez heureux lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous.
Heureux les pauvres en esprit, heureux quand vous serez maltraités, heureux. C'est pas, en tout cas, je vais dire de même, c'est pas jojo, là. C'est pas quelque chose qui, moi, spontanément, quand j'entends ça, évidemment, c'est « Seigneur, comment tu veux que je sois joyeux là-dedans? » Tu m'annonces des choses pas faciles, puis tu veux que je sois joyeux. Comment je fais? Comment j'accède à cette joie-là? On va y venir, découragez-vous pas. Mon autre sous-point, c'est la source de la joie. La source est spirituelle. Le Seigneur, quand il est venu sur la terre, je pense que c'est... J'écoute des fois comment il parlait à ses apôtres. Tu sais, Matthieu 16, il dit, si mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur a eu à travailler avec des gens qui ont eu à souffrir. Quand les disciples veulent chasser le démon qui est sourd et qui est aveugle, et puis là, le Père, il est découragé parce qu'ils ne sont pas capables. Fait que là, le Seigneur, il lève les yeux au ciel, et qu'est-ce qu'il dit? « Jusqu'à quand vais-je vous souffrir? » Quand le Seigneur ressuscite Lazare, il dit clairement, « Cette maladie-là a été donnée pour que vous croyiez. » Quand il calme la tempête dans le bateau, il est un peu découragé. Il est un peu découragé. Il regarde ses apôtres. Il dort, lui, dans le bateau. Pourquoi il dort? Évidemment, c'est le Seigneur. Il a une foi complète. Il sait ce qui va se passer. Il n'est pas surpris par ce qui se passe. Mais ses apôtres, évidemment, hommes de peu de foi. Hein? Donc, avoir nos réactions, avoir quand il y a chasser les changeurs dans le temple, puis faire sortir les animaux, puis tout le défi, le travail dur, c'est un labeur d'endurer des gens qui ne comprennent pas, puis qu'il faut qu'ils répètent, puis qu'ils répètent. Les gens voient des miracles, mais ils ne comprennent pas. Mais le Seigneur a gardé sa joie. Puis moi, un des plus beaux témoignages de ça, c'est quand il s'en va se faire crucifier. Luc 23, les femmes sont en arrière du Seigneur, ils se tapent sur la poitrine, puis ils pleurent, puis ils voient ça, puis ils disent que ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur se revient vers les autres, puis il dit, « Pleurez pas sur moi, pleurez sur vous. » Parce qu'évidemment, Dieu... Jésus, Saint-Esprit, sont la joie. C'est eux la source de la joie. Alors, quand le Seigneur s'est incarné, puis il est venu faire son travail, il est venu faire son ministère, il était conscient qu'il perdrait pas sa joie. Il y a eu des défis, il a travaillé, il a souffert, mais c'est extraordinaire, il a gardé sa joie. Sa joie, elle est spirituelle. Et quand on regarde dans Galates 5:22, là, le fruit de l'esprit, ça commence par l'amour. Le deuxième, c'est la joie. Et je pense que ces deux choses-là, dans la chaîne du fruit de l'esprit, sont vraiment attachées ensemble. Et je pense même, je pousserais l'hardiesse à dire, je pense que l'ordre y est pour quelque chose. Je n'ai pas étudié profondément ce passage-là, mais quand je le lis, moi, ce que ça me dit, si on aime, il y a une joie qui va émaner de ça. Si on aime, on est en relation. Si on aime, on est dans la vie qui nous vient du Dieu trine éternel. Évidemment, c'est uniquement par grâce, parce qu'on va demeurer des pécheurs. Mon troisième sous-point, c'est le fait que cette joie devient complète. Mais complète ici, je ne pense pas que ça veut juste dire parce que Jean nous a écrit ça, que sa joie est complète. Donc, et voilà, c'est fini, c'est fait. Moi, ma joie est complète. Est faite. Non, je ne pense pas. Je pense que quand on parle de joie complète, on parle de joie qui est active, donc qui va se partager. Je vous donne un exemple. Quelqu'un veut se marier. Puis il y a une feuille. Il y a une feuille, puis la description de sa femme est sur la feuille. Bon, blonde, les yeux bleus, tel caractère, fine, blablabla, tout là, c'est beau, là. C'est la femme parfaite, idéale, elle est là, sur le papier. Il arrive avec côté du pasteur, « Monsieur le pasteur, voici ma femme. » Ouais, OK, elle est bien belle sur le papier, mais l'as-tu regardé? L'as-tu écouté parler? Bon, tu y toucheras après que tu seras marié, là, mais je veux dire, ça commence par là. C'est que si on n'a pas de relation avec les gens et dans les petites choses, c'est pas obligé d'être des grandes choses compliquées. Je pense que c'est important de ne pas négliger les petites attentions. Évidemment, il y a des gens qui vont avoir besoin d'être écoutés. Il y en a qui vont vivre des choses plus difficiles que d'autres. C'est pas égal pour tout le monde. Dieu nous a donné un corps, Dieu nous a donné une situation dans l'Église, dans nos mariages, dans nos vies, dans notre santé. C'est pas la même chose pour les autres. Il y en a qui vont avoir plus de besoins que d'autres. Plus de besoins matériels, plus de besoins spirituels, plus de besoins d'écoute, plus de besoins... Peu importe. On a, en tant que croyant, à s'installer là-dedans et essayer de cibler les besoins. Pas qu'on va pouvoir répondre à tous les besoins, mais si on veut, je pense, développer notre joie, parce que je pense que la joie, ça se développe. C'est pas juste quelque chose qui nous tombe sur la tête et voilà, je suis joyeux. Si on a à développer notre joie, perfectionner notre joie, je pense qu'un des aspects à mettre en pratique, c'est entre les frères et les sœurs, évidemment, de ne pas négliger les petites actions, les choses simples. Puis je le sais qu'on ne le fait pas tout le temps. Mais si on met ça en pratique, je pense que la joie va être grandissante. Si on répare nos relations, je pense que la joie va être grandissante également. Parce que la joie, elle est de source spirituelle. Le Dieu trinitaire qui est en haut est toujours joyeux. Tu sais le fameux verset de Paul, là? Philippiens 4:4. Soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. Honnêtement, quand je suis embarqué dans ma vie chrétienne, là, puis je suis arrivé sur ce verset-là, là, j'étais frustré. Parce que je comprenais pas bien ce que Paul voulait dire. Je commençais à lire ma parole, puis j'étais là, puis je me disais, ouais, soyez toujours joyeux. Puis quand on pense à être toujours joyeux, moi, ce qui me venait, c'est comme les espèces de techniques qu'on nous vend, là, tu sais. T'as juste à penser à d'autres choses, tu sais. Tu peux dire que ta frustration, que ton anxiété, c'est pas tout ce qui se passe. Il y a d'autres affaires alentour de toi. Mets pas ta joie dans ta circonstance. Et ce sont des choses vraies, oui. Mais moi, c'est pas ça. Moi, c'était comme, quand je me suis converti, j'étais terriblement anxieux. Je lisais ma parole de Dieu, là. J'avais l'impression d'être devant un Dieu tellement grand, tellement puissant, puis d'être tellement rien, puis de faire juste du mal. Comment veux-tu que je sois joyeux? Puis en plus, j'étais tellement apeuré et terrorisé que j'osais pas poser de questions. Fait que je restais dans mon cerveau, là, je marinais là-dedans, là. Puis là, je regardais les chrétiens alentour de moi qui arrivaient à l'église le dimanche matin. « Seigneur est bon, on est dans la joie! » Puis bam, 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 bam. Je regardais ça, je me disais, « Non, pour moi, on n'a pas le même Dieu, là. On n'a vraiment pas le même Dieu. » Évidemment, ma compréhension n'était pas bonne. Alors, cette joie-là, si elle est complète, quel impact aura-t-elle? C'est qu'on va la partager. Ce n'est pas une joie égoïste. Je travaille sur ma vie, je fais mes affaires, donc je suis joyeux. Non, parce que cette joie-là dépend des circonstances. Si ma joie est complète, il faut qu'elle repose ailleurs. Et là, on arrive dans mon point 2 qui est facteur actif. Si ma joie, je souhaite qu'elle soit complète et j'ai envie de la partager, j'ai envie de découvrir cette joie qui a l'air authentique, vraie et qui nous vient du Seigneur, qu'est-ce que je peux faire du côté actif? Dans notre relation personnelle avec notre grand Dieu, et il y a une parole qui m'a été dite un jour et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je jasais avec un pasteur. J'étais au Nouveau-Brunswick avec François Bergeron. Et là, on jasait avec un pasteur et c'était un frère pentecôtiste. Et il m'a dit ça. Il m'a dit, sois juif dans ta relation avec Dieu. Sois juif. Là, j'ai fait comme, OK, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit, prends les psaumes. David est complètement intègre, complètement vrai. Il y a... David a quand même commis des péchés assez extraordinaires, mais c'est un homme selon le cœur de Dieu. S'il est selon le cœur de Dieu, ça veut dire que, fruit de l'esprit, David les avait. L'amour, la joie. Et quand on lit, exemple, psaume 13, David va coucher sa plainte devant l'Éternel, il va dire, « Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? » Mais il va finir par, « Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu vas opérer, malgré ma souffrance. » Le psaume 102 est exactement ça aussi. Est exactement ça. Il couche sa souffrance, il a les yeux pleins d'eau, mais même s'il a les yeux pleins d'eau, et qu'il souffre, il se remet à l'Éternel. Donc, si le côté de notre activité, il n'y a pas juste ça, mais je pense que c'est un facteur important, si on est actif dans notre relation avec le Seigneur, on est engagé. On parle vraiment de ce que l'on vit, de ce que l'on sent, de ce que l'on voudrait, mais qu'on remette ça au Seigneur de manière à ne pas cacher les choses le plus possible. Je le sais qu'on ne peut pas être parfait, je comprends tout cela, mais d'être vrai devant lui, ça va aussi faire qu'on va goûter à cette joie qui nous est proposée. Mais il y a aussi une autre chose, c'est qu'on va grandir en maturité. Si on est capable, si on se pratique, si on s'exerce à déposer notre cœur devant l'Éternel, qu'est-ce qui en découle? On va être capable aussi, je pense, de le déposer à nos frères et à nos sœurs. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et notez les deux commandements, commence par « Tu aimeras ». Si je reviens à mon fruit de l'esprit, si on aime, la joie va couler. Nos coupes vont être pleines. Maintenant, mon troisième point, qu'est-ce qui est un facteur passif? Est-ce qu'on est conscient de qu'est-ce qui nous sauve. Est-ce qu'on est conscient de ce qui nous sauve? C'est le sang du Christ. C'est ça qui nous sauve. Le sang de Jésus nous a lavé de tout péché. Péché, là, c'est... Ça n'arrête pas, là. Tous les secondes. Notre nature est corrompue. On est dans le péché. En position, on est assis dans les lieux célestes. On est co-héritier du royaume de Christ. Quelle joie! Quelle joie! Mais, on a encore les deux pieds sur la terre. Fait qu'on marche dans le fumier, ça pue, il faut le ramasser. Il y a des autres, il y en a qui nous ramassent, etc., etc., etc. Mais si on est capable, dans notre passivité, de voir où on place notre confiance, c'est-à-dire le Seigneur, et lui va nous laver, lui va nous ramener par son esprit. Et dans cette passivité-là, comment je pourrais dire? En même temps, ça devient un pas actif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de savoir que Christ a tout accompli à la croix, nous, on a à entrer dans cette œuvre accomplie pour mettre en pratique notre joie et pour nous libérer de ce qui nous fait mal. Dans le sens où nos anxiétés, comme je disais tantôt, nos relations horizontales entre les frères et sœurs qui sont douloureuses, les présenter au Seigneur, et chaque fois qu'on est troublé profondément dans notre âme, de revenir à « c'est le sang qui me sauve ». Je suis anxieux, c'est le sang qui va me sauver. Je suis déprimé, oui, c'est le sang du Christ, encore une fois. Parce que Dieu a accompli ce qu'il a accompli, c'est ça qui va me sauver. C'est ça qui va me garder en lui. Et même si je marche dans les difficultés, les tribulations, les défis, ça me sort par les oreilles. Je pense qu'il faut mettre en pratique cette joie et cette relation, que ce soit avec Dieu, que ce soit avec les frères et les sœurs, pour pouvoir goûter à cette joie complète, cette joie à laquelle on va pouvoir partager et s'encourager. Parce que si la joie, on ne peut pas la partager entre nous, un coup qu'on l'a goûtée avec le Seigneur, il manque un morceau du puzzle. Il manque un morceau du puzzle. Que le Seigneur nous donne la maturité, l'audace et la persévérance dans les temps actuels pour pouvoir mettre en œuvre cet amour qui va découler sur une joie complète en Christ Jésus. C'était mon message de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que le Seigneur répande sa bénédiction sur son peuple. Et que cette joie puisse être une source d'encouragement malgré les malgré nos défis. Amen. Amen.